Bonjour Pierre Chevalet.
Bonjour.
Je vous remercie d'être à nouveau sur FM+, pour cette émission diffusée le quatrième jeudi du mois. Vous représentez, je le rappelle, Pierre Chevalet, l'ICEO, l'Institut de coopération avec l'Europe orientale. Alors, vous avez aujourd'hui choisi de nous éveiller, de nous sensibiliser à la question linguistique, à la question de l'usage de la langue parlée. Qu'est-ce que c'est que parler une langue dans un contexte européen? Et vous avez aussi choisi de plus particulièrement nous parler de la question du trilinguisme. Et pour cela, Pierre Chevalet, nous accueillons Jean-Marie Roussignol. Bonjour Jean-Marie Roussignol.
Bonjour.
Alors Jean-Marie Roussignol, contrairement à Pierre Chevalet, nous ne vous connaissons pas encore, ou pas tout à fait bien en tout cas. Vous êtes déjà intervenu, mais il y a un peu de temps de cela. Alors, que choisiriez-vous de dire à nos auditeurs et auditrices pour vous présenter, Jean-Marie Roussignol?
Je dirais qu'avec mon nom d'oiseau, version occitane, je suis quand même un pigeon voyageur. Voilà. Je suis juriste de formation et j'ai été pendant pas mal d'années consultant sur les programmes européens d'appui à la réforme institutionnelle et administrative dans les pays qui sont maintenant dans l'Union européenne, mais qui à l'époque étaient candidats. Tous les pays sortis de l'ex-Union soviétique, dont les pays d'Europe centrale et de l'Est. Et dans ce contexte-là, j'ai participé à beaucoup de projets dans pas mal de pays et j'ai été confronté aux problèmes linguistiques puisque dans ces pays-là, tous les programmes européens étaient délivrés en anglais. Depuis les origines, c'est-à-dire les appels d'offres sur les projets, la réponse à ces appels d'offres pour les cabinets de consultants.
Non, uniquement en anglais.
Ces projets, tout se faisait en anglais.
Tout se faisait en anglais.
Et donc, j'ai été confronté aux conséquences que ça entraîne, je l'ai vu, par rapport à mes collègues experts de différents pays, mais aussi aux nationaux de ces pays-là. Voilà, donc c'est sur cette expérience très concrète, je donnerai des exemples précis, que s'est fondée ma conviction qu'il fallait quand même arriver à un autre niveau d'échange linguistique dans le contexte européen. Voilà.
Alors Pierre Chevalet, vous souhaitez nous parler justement aujourd'hui de ce contexte européen de la langue. Alors comment est-ce que vous êtes, vous, sensible à cet aspect de cette langue en Europe? Qu'est-ce qu'une langue au fond, d'abord et avant tout?
Alors, comme Jean-Marie Roussignol, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de coopération internationale et c'est à travers mon activité professionnelle que j'ai pu mesurer ce qui paraît pas évident quand on n'y a pas réfléchi, c'est de l'importance de la langue d'usage. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les problèmes linguistiques d'un côté un peu extérieur, on pense naïvement qu'une langue est un simple véhicule de la pensée et que donc on peut exprimer n'importe quelle pensée dans n'importe quelle langue. Et je pense que lorsqu'on a l'expérience d'une coopération vraiment approfondie, on réalise que la langue n'est pas un simple véhicule de la pensée, mais qu'elle en est souvent le terreau et le tuteur. C'est-à-dire que l'homme pense souvent dans sa langue maternelle et quand sa langue maternelle ne lui arrive pas simplement avec des mots, mais avec tout le sens des mots. Et donc, c'est très, très, très important. Et c'est pour ça que les gens sont si attachés, on s'en rend compte, à leur langue maternelle, parce que la plupart des gens réalisent que c'est souvent leur seul patrimoine culturel. Et c'est un facteur identitaire très important. Et donc, l'abandon pour beaucoup de gens de la langue d'usage, de leur langue d'usage, les met en insécurité culturelle. Et c'est, on pourra en parler, c'est un des facteurs très très importants de frilosité dans l'espace européen.
En effet, dans l'espace européen, comme vous le disiez, Jean-Marie Roussignol, on a choisi avant tout l'anglais en excluant toutes les autres langues.
Pratiquement. Mais pour compléter ce qu'a dit Pierre, avant d'arriver à ce point-là, je voudrais dire que on pourrait discuter longtemps de la poule et de l'œuf, savoir si c'est la langue qui crée la pensée ou si c'est la pensée qui crée la langue. Mais on voit que pour exprimer une pensée complète, nuancée, il faut maîtriser une langue suffisamment avec son vocabulaire et sa syntaxe. Et on voit que ceux qui pratiquent mal une langue ont du mal à exprimer une pensée complexe. Donc, C'est pour ça que c'est grave à notre niveau, en France aussi, de voir qu'il y a une déperdition dans l'apprentissage de la langue, etc.
Vous êtes en train de pointer là l'acquisition de la langue même.
Voilà.
L'acquisition de la langue maternelle ou langue de, voilà. la langue du voilà. pays dans, laquelle on voilà. vit, dans lequel on vit.
Mais à partir de là, on peut dire que même au niveau européen, le problème de la langue se pose de la même façon. Si, dans le contexte européen, petit à petit, on est amené à n'utiliser qu'une seule langue, en principe, dans l'Union européenne, il avait été adopté le principe de, à la fois, toutes les langues des pays membres sont langues officielles, mais on avait adopté le principe d'un certain nombre de langues de travail et de procédures selon la terminologie bruxelloise. Au début, au moment du marché commun, il y avait quatre langues qui étaient en pratique, c'était le français, l'allemand, l'anglais, l'italien, et il me semble que le néerlandais l'était aussi. Puis on a réduit à trois. C'était l'anglais, l'allemand et le français. L'évolution a fait que petit à petit, l'anglais est devenu dominant, et qu'actuellement, on considère qu'il y a pratiquement 80% de tous les documents émis par Bruxelles sont émis en anglais, qu'il doit rester 7 ou 8% pour l'allemand, et le reste entre 12 et 14% pour le français. Je ne sais pas si je suis au total de 100%, mais enfin bon, ce n'est pas tout à fait ça, mais grosso modo, c'est la ligne directrice. Et donc, on constate que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans tous ces programmes européens qui ont été faits d'abord en direction des pays d'Europe centrale et de l'Est, le fait d'imposer progressivement et systématiquement la langue anglaise comme langue unique de travail, de conception, de formulation, d'expression et de réalisation de tous ces projets et programmes, ça conduit aux conséquences suivantes, que on recrutera des experts sur ces programmes, des experts européens, qui seront d'abord anglophones. Celui qui peut être extrêmement compétent dans son domaine, mais qui n'est pas suffisamment anglophone, on ne le prendra pas. Donc il y a une déperdition sur le savoir et la compétence concrète, technique, pratique, qui pourrait être intéressante dans l'application de ces projets. Les experts que l'on va recruter dans les pays bénéficiaires, dans ces programmes-là, le principe c'est d'avoir une équipe internationale européenne associée à une équipe de nationaux, qu'on appelle souvent experts juniors, parce qu'ils sont plus jeunes et ont moins d'expérience. Mais cela aussi, on va les recruter à partir d'une compétence professionnelle, mais aussi d'une compétence linguistique. Ils vont parler anglais. Donc, tout va se faire en anglais. Lorsqu'un anglophone de naissance travaille dans ce contexte-là, il le fait parce que ça lui est devenu tellement naturel que partout en Europe, tout le monde doit le comprendre, il va parler avec le débit qui lui est naturel dans sa langue. J'ai fait des enquêtes auprès de mes collègues d'autres pays qui étaient dans telle ou telle équipe pour voir si à tel moment d'une réunion où on parlait avec nos experts anglais, s'ils avaient tout compris. Et je voyais qu'ils n'avaient pas toujours tout compris, mais ils ne pouvaient pas le dire puisqu'ils avaient été recrutés sur le principe qu'ils maîtrisaient l'anglais. Donc petit à petit, on arrive à cette situation qu'on réduit le champ de l'expertise que l'on va utiliser, que l'on réduit le champ de l'intérêt linguistique pour d'autres langues, et que tous ces jeunes des pays d'Europe centrale et de l'Est, mais même pour les nôtres, qui veulent être candidats à un emploi dans le système européen, ils vont privilégier l'anglais au détriment des autres langues européennes qui autrefois étaient très pratiquées dans leur pays. Je pense à la Roumanie, mais à tant d'autres, la Pologne, la Bulgarie, où le français était la langue première autrefois, la langue étrangère première, et qui est maintenant plus ou moins laissée à l'abandon, parce que tout le monde focalise sur l'anglais, parce que si on veut faire une carrière, il faut parler anglais.
Donc l'usage d'une langue unique, telle que l'anglais, finalement, au lieu de rassembler, exclut.
Ça exclut, et ça appauvrit le dialogue et l'échange.
Exclusion, appauvrissement.
Voilà. Et donc là, je pourrais tout à l'heure donner tout un tas d'exemples très précis. Qui sont
alors, Pierre Chevalet.
Il y a un point qu'il faudrait préciser, surtout, avant que les gens puissent s'imaginer le contraire de ce qu'on pense profondément. Jean-Marie, comme moi, nous avons la chance de pouvoir nous exprimer en anglais, et donc nous ne sommes pas les premières victimes de ce phénomène. Mais par notre expérience, nous avons pu mesurer ce qu'était vraiment le problème. C'est-à-dire que j'ai assisté durant ma carrière universitaire à de nombreuses conférences. Et j'ai pu voir ce que c'était que ma souffrance, parce que je ne suis pas anglophone de naissance, mais au bout d'un certain nombre d'heures, mon cerveau vagabonde. Mmh. Et donc, je peux imaginer qu'un petit collégien français qui ne domine pas du tout la langue française a les plus grandes difficultés à ne pas être dissipé en classe s'il ne domine pas la langue. Mmh. C'est pourquoi l'apprentissage de la langue d'usage dans un pays est fondamental.
Là, en ce moment, nous sommes en défaut en France.
Le grand problème, puisque la rubrique s'appelle « Vivre ensemble », je pense qu'il y a un malentendu qu'il ne faut pas avoir. C'est vivre ensemble, il faut bien le comprendre, pour pouvoir vivre ensemble, il faut communiquer ensemble, il faut avoir, on en reparlera certainement dans une émission spéciale, mais il faut avoir des codes sociaux et il faut avoir des codes linguistiques. Hein? Parce que, par définition, si vous parlez pas la langue de... Si votre interlocuteur ne comprend pas ce que vous lui dites, la communication est un peu limitée. Donc, il y a cet exercice un peu délicat à faire, c'est qu'à la fois, dans le cadre européen, il faut absolument préserver la diversité linguistique et accorder un même respect à toutes les langues nationales qui ont façonné l'histoire et les cerveaux des gens. Et d'autre part, trouver un biais pour qu'on puisse communiquer à minima. Et d'autre part, c'est là que très important, dans un pays, par définition, il faut qu'il y ait une langue qui s'impose. C'est tout le problème des pays multilingues. Et les Suisses ont magnifiquement réussi ça, c'est-à-dire que en Suisse, les Allemands parlent allemand, les Romanches parlent Romanche, les Italiens parlent italien, et ça n'empêche pas le pays d'avoir une grande cohérence politique.
Étatique.
Étatique. Ouais. C'est-à-dire que il n'y a pas d'irrédentisme du tout, il n'y a pas de volonté de séparer la Suisse. On n'a jamais entendu un Suisse de Genève demander son rattachement à la France ou son indépendance. Mmh. Donc, le problème linguistique, c'est pour ça que l'illusion européenne qui, pour certains qui pensaient que pour faire la cohésion européenne, il fallait façonner un Européen standard avec une langue standard... on se rend compte que c'est une impasse. Et c'est d'autant plus impasse à la suite du Brexit, parce que le paradoxe, c'est qu'on impose au niveau de l'Europe une langue d'un pays qui se fait un plaisir de dire « je ne veux plus travailler avec vous comme avant ». Donc là, c'est un grave problème. Et d'autre part, au niveau... Alors, pour ce qui est... donc, j'ai bien précisé que Jean-Marie, comme moi, nous avons travaillé toute notre vie avec l'anglais, donc on n'a aucun problème, parce que quelquefois, on présente les gens qui défendent le français ou qui défendent la diversité linguistique comme des attardés, des gens, des ringards, hein, puisque maintenant, tout le monde parle anglais, même en Allemagne. Et donc, ce qui est assez paradoxal, si De Gaulle avait parlé anglais aux Allemands quand il est allé en septembre 62 en Allemagne, il aurait certainement été mal perçu. Et ça n'aurait pas été une bonne chose pour l'Europe. Et donc, le problème de la langue est essentiel, et même d'un point de vue géopolitique. Regardez, actuellement, toutes les courbes démographiques montrent que le nombre de pays qui ont pour langue d'usage national le français va croître énormément.
La francophonie a encore du sens pour vous ?
C'est une réalité objective, c'est-à-dire que 80% des élites africaines dans les pays francophones utilisent le français, l'enseignement se fait en français, etc. Donc, mes étudiants africains me disaient toujours, le grand paradoxe de la France, c'est que vous nous avez enseigné le français, nous avons étudié en français, et quand on arrive en France, vous nous obligez à travailler en anglais. Bon, alors, bien évidemment, les chercheurs africains peuvent très bien se mettre à l'anglais, aussi bien que les Français, mais le moins qu'on pourrait faire pour être efficace, pour aider l'Afrique, ça serait peut-être de faire un certain nombre de traductions des publications les plus lues, les plus consultées, et de les traduire en français. Ça permettrait à tous ces étudiants de pouvoir lire, parce que lire une publication scientifique très complexe dans une langue qu'on ne domine pas, vous allez à la catastrophe très souvent. Donc ça, c'est très important, dominer la langue.
court instant musical avec Léo Ferré qui défend à sa façon la langue française. Pierre Chevalet, Jean-Marie Roussignol, nous sommes toujours sur FM Plus 91 FM à Montpellier et vous échangez sur la qualité de la langue parlée. Comment est-ce que ça se passe dans un contexte européen où l'anglais, vous venez de le dire, Jean-Marie Roussignol devient prépondérant. On parle exclusivement, quasiment anglais dans ces conférences. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ces pays, dans ces cas-là, quand l'anglais devient trop présent, trop envahissant? Vous diriez ça aussi, invasif, envahissant?
Invasif, oui, mais je voudrais dire aussi que je ne fais pas de l'anglophobie par système. J'ai beaucoup d'anciens collègues britanniques avec qui j'ai lié des liens d'amitié, avec qui je suis toujours en contact, et je parle volontiers anglais avec eux, donc la question n'est pas là. Sur le point de la francophonie qui a été évoqué tout à l'heure, je voudrais dire, je l'avais déjà évoqué, que dans pas mal de pays d'Europe centrale et de l'Est, le français avait été longtemps la première langue étrangère, et que ça a passé. Et souvent dans mes activités ayant à travailler avec des collègues nationaux de ces pays-là, ils me disaient, mais oui, mais moi j'ai appris le français comme première langue, mais depuis qu'on est dans le système européen, on nous impose tellement de parler anglais que nous avons oublié le français. Mais comme ses collègues voyaient que, notamment en Roumanie, je parle à peu près roumain, j'ai étudié parce que j'y ai travaillé assez souvent, je faisais l'effort d'essayer de parler avec eux dans leur langue, ils se sont remis au français et ils ont récupéré très vite. Mon ancienne collaboratrice sur le dernier projet dans lequel j'ai travaillé en Roumanie, qui hésitait, qui avait honte de se remettre au français parce que elle croyait l'avoir perdu, en l'espace de 2 ans, elle l'a récupéré parfaitement et elle le parle d'une façon parfaite. Voilà. Donc, pour ce qui est des conséquences au niveau européen, ben, je vais vous donner un exemple précis. Le dernier projet sur lequel j'ai travaillé en Roumanie, c'était un projet qui s'appelait, en anglais bien entendu, YPS, Young Professional Scheme. Ça voulait dire, c'était un programme de formation de futurs, disons, administrateurs civils, hein, l'équivalent de ce qui serait en France des administrateurs civils, pour l'administration publique. Il y a de jeunes managers publics, comme on dit. J'ai travaillé sur 3 promotions. Sur la première promotion, nous avions 108 stagiaires. Sur ces 108, 78 avaient choisi l'anglais comme première langue parce qu'à la deuxième année de leur cycle d'études, devait se faire dans le pays dont ils choisissaient la langue. Donc 78 anglophones, 23 francophones, 3 hispanophones, 2 germanophones, 2 italophones. Sur la promotion suivante, nous avions 125 stagiaires, parmi lesquels 108 anglophones, 17 francophones, et les autres langues avaient disparu. Sur la troisième promotion, j'ai participé à la sélection sur 142 finalistes dans le processus de sélection, parmi lesquels 128 avaient choisi l'anglais et seulement 14 le français. Mmh. Les autres langues, plus rien. Donc voilà comment disparu par le fait que l'imposition de l'anglais dans le système de fonctionnement éliminait les autres langues. Mmh. Donc le résultat, c'est que, aussi comme on l'a dit au début, une langue n'est pas qu'un système d'échange, mais c'est aussi porteur d'un système, d'une façon de concevoir les choses. Et sur ces programmes d'appui à la réforme administrative sur lesquels j'ai travaillé, on voit qu'évidemment, on a imposé à tous ces pays-là dans la réforme, par exemple, de leur système de fonction publique, des concepts qui sont des concepts anglo-saxons, au détriment des autres. Alors que si dans l'équipe d'experts internationaux européens, il y avait davantage de diversité dans la possibilité de s'exprimer, on recruterait des gens qui pourraient le faire dans d'autres langues, et on aurait un point de comparaison plus important avec les différents systèmes et les solutions des différents systèmes de fonction publique par rapport à tel problème précis.
Alors vous évoquiez, Pierre Chevalet, tout à l'heure la Suisse. Mmh. Est-ce que ce serait pour vous un modèle qui pourrait être plaqué sur l'Europe, avec dans les conditions que présente Jean-Marie Roussignol?
Non, je pense qu'au stade où on en est, il serait difficile de transposer le système suisse à toute l'Europe, parce que la Suisse s'est constituée après des siècles de coexistence, et donc ils ont c'est tellement ancré dans la culture suisse qu'ils acceptent le calendrier scolaire que nous on serait capable d'accepter, et donc je pense qu'on peut difficilement ce qu'on peut retenir du système suisse, c'est qu'il y a la volonté de respecter la diversité linguistique et d'un point de vue pratique, c'est-à-dire que paradoxalement, c'est comme nous on a fait en Alsace jusqu'à encore peu de temps, peu de gens savent qu'en France, jusque dans les années, au moins jusqu'en 1981, toutes les affiches en Alsace étaient en français et en allemand, en 1981, parce qu'on pensait que les Alsaciens, certains n'étaient pas francophones, et donc la démocratie, quand vous ne comprenez pas la langue, ça pose un problème. Donc ce que nous, on a fait en Alsace jusqu'en 1980, on peut imaginer que les Européens puissent le faire sans que ça pose trop de problèmes.
Mais vous évoquiez trois langues, oui, vous évoquiez le trilinguisme.
C'est pour ça alors c'est un peu complexe pour les gens qui abordent le problème pour la première fois, mais je vous invite à regarder sur le site ICO, développer d'un point de vue pratique ce que ça pourrait donner, mais ce que Jean-Marie a bien théorisé, c'est-à-dire un trilinguisme souple, dans lequel on s'arrange pour qu'il y ait des langues pivots qui ressortent tout le temps, pour qu'il y ait des langues de base qui apparaissent, mais que chacun dans sa langue puisse aussi apparaître à un certain niveau, c'est-à-dire que chacun puisse vérifier que ce qui est écrit correspond bien à sa pensée. Et ça, c'est, je pense qu'on a voulu supprimer la diversité linguistique pour des raisons économiques. Alors, des raisons économiques assez simplistes, c'est-à-dire qu'on pense qu'une seule langue, ça coûte moins cher que trois langues. Mais le multilinguisme, ça ne coûte cher qu'avant l'accident. Et nous avons pu voir que, par exemple, Airbus a voulu travailler à un moment dans le monolinguisme. Et je pense qu'ils en sont encore intéressés au monolinguisme. Et nous pensons, et c'est quasiment admis par tous les spécialistes, qu'un des accidents qui a eu lieu de ce fameux avion porteur, qui s'est écrasé, vous savez, on pense que c'est lié à une erreur de communication entre les équipes, puisque l'Airbus est constitué par des équipes espagnoles, des équipes allemandes, des équipes françaises, etc. Et nous avons la faiblesse de penser que si Airbus avait fonctionné sur le schéma que Jean-Marie proposait, ça aurait été un enrichissement et ça aurait été une garantie de sécurité. De même que quand vous faites de l'alpinisme, vous prenez des cordes de rappel, le multilinguisme, c'est une corde de rappel qui vous permet. Un technicien, quand il peut se reporter un texte dans sa langue maternelle, il peut voir s'il y a une erreur, parce que sa langue lui parle vraiment. Mais si il lit une notice technique dans une langue qui n'est pas la sienne, etc.
Ça reste abstrait, voilà, conceptualisé.
Et de même, on s'est vanté de la suppression, enfin du brevet européen qui peut être fait dans trois langues. Mais à mon avis, c'était bien de supprimer les 28 langues pour les brevets européens, mais si on s'était arrêté au trilinguisme tel que nous le proposions, c'était parfait. Deux langues pivot européennes qui permettaient d'être sûr que tout le monde puisse comprendre, puisque en Europe, tout le monde a la capacité de soit l'allemand, soit l'anglais, soit le français. Et puis, l'inventeur fait le brevet dans sa langue maternelle. À ce moment-là, il n'y a plus de contentieux possible, parce que ce qui fait foi, c'est la langue maternelle. Donc, tous ces petits problèmes qu'on a voulu gommer, ça revient d'un point de vue politique, d'un point de vue économique. Il y a une phrase qui est très importante, c'est qu'il y avait un inspecteur général d'académie, spécialiste d'allemand, qui avait cette phrase que j'aime beaucoup, il disait « Le tout anglais, c'est très bien pour acheter ». Mais ça ne suffit pas pour vendre. Et effectivement, d'un point de vue économique, prétendre faire tout, pouvoir tout faire en anglais, c'est pas vouloir exporter beaucoup, parce que les plus grands spécialistes de la Chine parlent chinois, et les plus grands spécialistes de l'islam parlent arabe.
Mais est-ce que cette proposition que vous avez évoquée théoriquement, Jean-Marie Roussignol, va donner naissance à une application précise ?
Alors, ce que nous proposons, donc, comme a dit Pierre, c'est un trilinguisme souple, basé sur les trois langues de travail et de procédure adoptées en principe par la Commission de Bruxelles, mais si peu pratiquées. Mais nous l'avons assoupli au fait qu'il ne s'agit pas de passer d'un monolinguisme à un trilinguisme strict.
Équivalent.
Voilà. Et d'autres grands pays de l'Europe, comme l'Italie, l'Espagne, ont évidemment protesté un peu contre cette approche du problème. Donc ce que nous proposons, c'est que toute personne qui, pour le compte de son gouvernement, a une proposition à mettre sur la table des discussions européennes, le fasse d'abord dans sa langue maternelle, parce que c'est quand même pour chacun de nous dans sa langue maternelle que l'on peut le mieux exprimer toutes les nuances de sa pensée. Et qu'ensuite, pour les besoins de la diffusion, parmi les trois langues pivots ou de travail ou de procédure, anglais, allemand, français, ils choisissent deux de ces langues dans lesquelles son texte sera traduit pour diffusion, ou, si le contexte l'exige, au moins l'une de ces langues, et puis une autre des langues européennes, qui serait donc plus en rapport avec le problème dont il a discuté, de la destination, de la solution qu'il propose. Voilà. Ce qui fait que, à tour de rôle, toutes les langues européennes seraient pratiquées, ce qui les valoriserait, aucune ne serait totalement privilégiée, et en même temps, on gagnerait en substance dans le contenu de la pensée exprimée. Et c'est la langue source de l'émetteur qui serait la langue de référence en cas de contentieux. Parce que on s'aperçoit, et ça c'est mon expérience de juriste aussi sur la réforme de statut des fonctions publiques et d'autres domaines, que la langue anglaise, au point de vue juridique, n'est pas une langue très précise. Et j'en ai pas mal discuté avec mes collègues britanniques qui le reconnaissent. C'est par le contexte qu'on définit ce qu'est un job, ce qu'est une position dans le civil service, etc. Tandis que la langue française est beaucoup plus précise, l'allemande aussi, sur le plan juridique. Donc, tout le monde y gagnerait. Et en même temps, on voit que, finalement, si on ne pratiquait qu'une seule langue, comme c'est la tendance actuelle, ben, petit à petit, les autres langues vont devenir des patois, et c'est un appauvrissement de la richesse culturelle de l'Europe qui repose justement sur sa diversité linguistique. Je veux donner juste un petit exemple.
Avant de laisser la parole à Pierre, qui conclura l'émission.
Juste un mot pour montrer quelque chose qui est, à mon avis, caricatural, c'est le concours de l'Eurovision. Quand vous écoutez les chanteurs dans l'Eurovision, ils sont pas tous anglais, qui viennent de Norvège, qui viennent de Pologne, qui d'où vous voudrez, ils ont tous le même calibrage de chansons, rien ne les identifie pour leur origine nationale. Et pour moi, il me semble que c'est caricatural et fâcheux.
Pierre Chevalet, un mot de conclusion ?
Non, effectivement, l'exemple de l'Eurovision est très très bien, parce qu'on est dans une société complètement schizophrène, puisqu'on prône la richesse de la diversité culturelle, et on fait tout pour, qu'il y ait... pas de diversité culturelle, puisque l'Eurovision, c'est l'aplanissement. Alors, une chose qui est très importante, c'est que l'anglais tel qu'il est pratiqué en Europe, il faut être conscient de ça, ce sont les traducteurs européens qui nous ont sensibilisés à ce problème, c'est que c'est un anglais qui n'a rien à voir avec l'anglais qui est parlé en Grande-Bretagne, ni avec l'américain qui est parlé aux États-Unis. C'est un anglais qui est en train de se façonner, et qui est un anglais... qui a diverses facettes. C'est-à-dire que des Polonais qui écrivent en anglais, des Roumains qui écrivent en anglais, il y a des roumanismes dans leurs phrases, il y a des polonismes dans leurs phrases. Ça fait qu'à la fin, ça fait une grande tambouille. C'est-à-dire que pour de nombreux collègues qu'on a britanniques qui disaient « Nous sommes absolument pour que chacun parle dans sa langue parce qu'on ne reconnaît plus notre anglais. » Et effectivement, la langue s'appauvrit. Et donc, c'est... On perd en subtilité puisque les gens sont obligés de se mettre au niveau de l'autre. Alors le problème dans la communication, si vous êtes allemand, que moi je suis espagnol et qu'on communique en anglais, si on ne domine pas parfaitement l'anglais, on va avoir une communication qui va être anglophone. Et cette communication anglophone, elle n'est pas seulement anglophone, elle est culturelle.
Mentalement anglophone.
Et c'est comme ça que les journalistes se trompent sans arrêt, puisque... Ils interrogent des gens qui parlent anglais. Mais en interrogeant quelqu'un qui parle anglais, si vous interrogez, par exemple, en Afghanistan, que des talibans qui parlent anglais, vous avez des chances d'avoir des talibans qui soient pour les Américains. Mais si vous les interrogez dans la langue patchoune, etc., vous pouvez mieux mesurer quelle est la sensibilité de la population par rapport à la présence américaine en Afghanistan.
La langue reflète l'identité.
C'est l'exercice que nos journalistes ont mal fait aux États-Unis, puisqu'ils parlaient qu'avec des gens qui avaient le même vocabulaire, ils n'ont pas suffisamment communiqué.
Merci Pierre Chevalet, merci Jean-Marie Roussignol pour avoir communiqué sur cet usage de la langue dans l'Europe. l'Europe orientale, mais pas que, dans toute l'Europe. Donc une émission à redécouvrir, à écouter le quatrième jeudi du mois, à 20h, podcastée sur notre site, et tout renseignement.
Un point quand même, c'est que je pense qu'il faudrait sensibiliser les enseignants qui sont dans nos lycées, car... Parti comme on est, on l'a vu au niveau des programmes, l'enseignement de deux langues vivantes risque d'être mis en question, puisque si tout le monde pense qu'avec l'anglais ça suffit, c'est un drame. Or, la seule façon de sauver la diversité linguistique, c'est de promouvoir un vrai trilinguisme au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire que deux langues vivantes, et puis c'est le combat que nous menons au niveau de l'Europe, c'est l'Europe qui devrait donner l'exemple, malheureusement elle donne le mauvais exemple comme dans beaucoup d'autres domaines.
À suivre sur le site de l'Institut de coopération avec l'Europe orientale. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Au revoir.
Cool.